Fahrstuhl alone.
Aujourd'hui, on continue sur le thème de la sanctification. C'est la deuxième partie. Et on termine aujourd'hui. Donc, il n'y a que deux parties sur ce thème de la sanctification. Je voudrais commencer en vous expliquant, ou juste exposant même, trois façons historiques, trois façons erronées d'aborder la sanctification. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour montrer que ça n'a pas marché. La première façon était, chez les catholiques, on abordait la sanctification en disant qu'on pouvait payer pour la mauvaise conduite par les pénitences et les indulgences. Après, chez les luthériennes, de ce que j'ai compris, leur idée était que le péché, ça existe, il faut l'accepter, c'est inévitable. Chez les calvinistes et les puritains, on a décidé qu'on va réglementer, on va faire les lois de conduite et punir les gens qui n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne. Et je peux vous dire qu'on est tous coupables, donc on sera tous punis sous un état de ce genre-là. Donc ça, c'est les trois méthodes erronées principales historiques. Il y a aussi certaines personnes, même quelques mouvements, qui sont allés jusqu'à prétendre que le chrétien arrive à ne plus pécher, il est perfectionné ici-bas. Alors, on n'a qu'à regarder dans le Nouveau Testament pour voir que même Paul, l'apôtre, a dit qu'il n'était pas encore arrivé. Alors, si l'apôtre ne pouvait pas arriver, eh bien, moi non plus et vous non plus, nous n'allons pas arriver. Donc, la cinquième idée, c'est justement l'idée biblique de la sanctification. C'est chacun individuellement. Ce n'est pas une question d'État. Ce n'est pas une question d'Église ou de croyance d'un groupe ou de philosophie, c'est une lutte personnelle, individuelle. Et dans notre lutte personnelle, on va soit progresser, soit faillir. Okay? Mais c'est moi qui arrive ou qui n'arrive pas. C'est vous qui arrive ou qui n'arrive pas. Et c'est devant le Seigneur. C'est pas devant le monde entier ou devant l'État. Et cette idée est exprimée dans Romains chapitre 7, où Paul lui-même a exprimé la lutte, que lui-même avait cette lutte constante. Et il dit que, plus que malheureusement autrefois, il n'arrivait pas. Il faisait justement ce qu'il ne voulait pas faire. Et ce qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à le faire. Donc on a, dans notre vie de chrétien, eh bien, on a cette lutte. Et assez souvent, on ne va pas arriver. Et c'est pour cela qu'il a écrit Romains chapitre 8 pour dire que vous arrivez, que vous n'arrivez pas, Dieu vous aime. Et rien, rien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été exprimé sur la croix en Jésus-Christ. Hein? Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Ça ne veut pas dire que voilà, on parle des péchés. Ce n'est pas l'objectif. Le point, c'est que si on n'arrive pas à vivre parfaitement, et c'est le cas de nous tous, eh bien, Dieu nous aime toujours et purifie toujours nos péchés. Donc voilà, en parlant de la sanctification, je ne parle pas du salut. Par exemple, Abraham a été sauvé. La Bible dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham a été justifié, donc il a été sauvé par l'acte de Dieu, au moment qu'il a cru à la parole que Dieu avait exprimée. Dieu a crédité la justification. Dieu a sauvé Abraham. Il a crédité la justification à son compte spirituel. Et bien que la Bible appelle Abraham l'ami de Dieu, Abraham a quand même commis, par la suite de sa justification, il a commis plusieurs péchés bien graves. Sa vie n'était pas sanctifiée, bien qu'il ait été sauvé. Et c'est notre cas aussi. La différence, c'est que nous, on a le Saint-Esprit en nous qui nous aide, et Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Aussi, en parlant de la sanctification, je ne parle pas de nos récompenses éternelles là-haut dans la présence de Dieu, là où le péché ne peut plus nous atteindre, là où nous serons rendus absolument saints et éternellement saints. En parlant de la sanctification, je parle de notre vie quotidienne ici-bas. C'est là que c'est difficile. Oui, nous avons cru en Jésus-Christ et oui, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a promis, à nous qui croyons, il nous a promis une demeure éternelle dans le paradis céleste. Ce sont des acquis. En revanche, ce qui n'est pas acquis, c'est votre vie d'à présent. Comment vous vivez aujourd'hui? Dieu vous a confié X années de vie. Comment allez-vous dépenser ce trésor? La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le croyant ira de progrès en progrès, mettant en pratique sa foi. Ceci ne signifie pas que le croyant doit agir dans la peur, comme si son Père céleste était supposé le punir. Cette optique de vie, cette façon de penser, montre un manque d'appréciation pour l'amour de Dieu envers ses enfants. Car Dieu a bien dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Après tous les loups dans le chapitre 7, il dit cette grande phrase, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, il donne tout le chapitre pour expliquer pourquoi il n'y a plus de condamnation. Au contraire, donc, non pas motivé par la peur, mais par reconnaissance envers Dieu, pour son amour exprimé dans l'Évangile, le croyant va vivre dans l'optique de vouloir plaire au Seigneur. Pas parce qu'on a peur du Seigneur, mais parce qu'on veut plaire au Seigneur. Regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris, de nous, c'est-à-dire de Paul et son équipe, comment vous devez vivre, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ok, donc, Paul avait appris aux Thessaloniciens comment il fallait vivre, comment il fallait se conduire. Et pourquoi? Pour plaire à Dieu. Et ils arrivaient à le faire, à un certain degré. Mais puisqu'on est pécheur, eh bien, il y a toujours de progrès à faire. Et c'est pour ça, à la fin de la phrase, il dit qu'on doit marcher, on doit vivre, on doit se conduire de progrès en progrès. Toujours allant de mieux en mieux. Le prochain verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Donc, quand Paul était avec ce groupe à Thessalonique pour une petite 3 semaines, il avait dit qu'il faut fonder votre vie sur la parole de Dieu. C'était des choses qui venaient de la part du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas construire une vie chrétienne sans connaître la parole de Dieu. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le mot que nous regardons à travers ce message et le dernier message. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu s'intéresse à la vie quotidienne de ses enfants. Il veut savoir comment vous passez toutes les journées. Il veut voir que vous vivez pour lui plaire. Voilà donc ce que la Bible veut dire par ce mot sanctification. La sanctification, on continue dans le verset 3, la sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de l'immoralité. Okay? Aussi, la sanctification, c'est que chacun de vous sache comment posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc là, c'est la maîtrise de soi. Et vous savez bien, la maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est normal que les chrétiens ne vivent pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. On connaît Dieu, on a cru en Jésus-Christ. On est enfant de Dieu. Verset 6. La sanctification, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous, vous l'avons déjà dit et attesté. C'est-à-dire, quand il était avec eux, il a déjà parlé de ces choses-là. Il ne faut pas que les chrétiens soient tricheurs. Il ne faut pas qu'on soit à tout prix, il faut avoir plus de biens et tous d'argent. Il dit pas de cupidité dans les affaires. Et il dit que Dieu punira les pécheurs pour le péché. Puisque Dieu va punir les pécheurs pour leur péché, nous ne devons pas pratiquer ces choses, ces mêmes choses, sous le prétexte que, bah, de toute façon, Dieu m'a pardonné. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché, donc je vais faire tous les péchés, et comme ça, Dieu peut tout laver. Ça, c'est vraiment inique. Ça, c'est contredisant. Ça ne peut jamais plaire à Dieu. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais, encore, mais à la sanctification. Nous sommes purifiés. Pourquoi voulez-vous salir encore votre vie? C'est illogique. C'est possible. D'accord, on peut le faire, mais ce n'est pas logique. Dieu nous a purifiés. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Donc, Paul dit, bon voilà, c'est moi un homme qui est en train d'écrire, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce message. Donc, celui qui rejette ses préceptes qu'il est en train d'exprimer ne rejette pas un homme. Paul, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, globalement, ça veut dire que vivre en contradiction avec la parole de Dieu, eh bien, c'est s'opposer à Dieu. Ce n'est pas une vie chrétienne. C'est le contraire de la sanctification, de vivre en contradiction avec ce que Dieu veut. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans la Macédoine entière. Donc, cette église à Thessalonique, donc, dans l'église, ils avaient un amour fraternel qui s'exprimait les uns envers les autres, et même au-delà de l'église, envers les autres chrétiens dans les autres églises. Et je voulais dire qu'il me semble que c'est la même chose chez nous. Hein? Chez nous, je pense qu'on s'aime entre nous, on a une entre-aide, et on s'inquiète au-delà de nos quatre murs, n'est-ce pas? Mais, voilà, continuons dans le verset 10. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Toujours plus. Il y a toujours de la place pour améliorer la façon que vous exprimez votre amour chrétien les uns envers les autres. Verset 11. Et à mettre votre honneur, donc au lieu de vivre dans l'impureté, il faut vivre dans la sanctification. Et donc, il parle de l'amour chrétien, etc. Et il dit, donc voilà, il faut progresser dans l'amour. Et il dit aussi à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Et donc, j'arrête là déjà. Donc, vivre tranquille, ça veut dire paisiblement. OK? On ne sait pas, ce ne devrait pas être nous qui sommes toujours en train de causer des problèmes pour les autres. Et aussi, il dit de vous occuper de vos propres affaires, donc de ne pas se mêler des affaires des autres. Bon, si vous êtes invité d'aider quelqu'un, d'accord. Mais s'il ne vous invite pas, il ne faut pas vous mettre dans l'affaire de l'autre personne. Et il dit à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Donc l'idée, c'est que les chrétiens ne devraient pas être paresseux, mais qu'ils doivent être productifs, industriels. On est actif, on produit des choses, on fait un salaire, etc. Il dit au verset 12, en sorte que, donc, travaillez avec vos mains, etc., de vos mains, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, on voit dans cette idée de travailler avec nos mains, ça nous encourage vers l'indépendance, qu'on ne soit pas dépendant des autres. Et je voulais dire, dans le 18e siècle, il y avait un mouvement qui s'appelle les Frères de Morave. Et eux, ils envoyaient des missionnaires artisans. Donc les artisans allaient ici et là dans le monde, et quand ils arrivaient dans tel endroit, eh bien, ils pratiquaient leur
activité,
merci. Et cela payait leur salaire. Et en faisant leur activité, eh bien, ils évangélisaient les gens qui étaient là. Donc c'était une très bonne méthode. C'était un peu comme Paul faisait en faisant des pâtes. Donc, pour un peu récapituler tout ce que j'ai dit là, vous n'arriverez pas à plaire à Dieu dans votre vie de chrétien, sauf si vous suivez les instructions. Dieu nous a donné dans sa parole les instructions. Et donc, il faut aller dans ce livre-là pour savoir comment être un bon chrétien. Et là, c'est une chose, on critiquait Luther, Martin Luther. Mais pourquoi vous voulez que tous les chrétiens ont la Bible dans leurs mains, entre leurs mains? Il a dit, pour qu'ils soient des meilleurs chrétiens. D'après cela, on veut être des véritables chrétiens. Premièrement, la Bible dit, dans Galates chapitre 5 et verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, en négatif, si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous accomplirez les désirs de la chair. C'est d'office. Pourquoi? Parce qu'on est être humain. Donc, on a les désirs, on a notre humanité et on va vivre comme les êtres humains, sauf si on vit de notre manière, c'est-à-dire en marchant selon l'esprit. Vous devez vous conduire selon l'esprit de Dieu, qui, bien sûr, habite en vous. Ceci revient à la prière de Jésus pour vous, que je vous ai cité la semaine dernière, dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les, donc les disciples, les croyants, sanctifie-les par ta parole est la vérité. La parole de Dieu est l'instrument du Saint-Esprit pour vous apprendre les principes de la sanctification. Je ne dis pas les lois de la sanctification, mais les principes. C'est à vous d'appliquer ces principes à votre vie. Si vous ignorez la parole de Dieu, ou si vous la comprenez mal, eh bien, vous n'allez pas pouvoir marcher selon l'Esprit. C'est pour cela que Paul insiste et nous encourage dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 1, maintenant verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu ne veut pas qu'on se suicide. Il veut qu'on vive et en vivant, de donner notre vie pour être un genre de sacrifice offert à Dieu, qui est acceptable donc à Dieu. Et il dit, on peut avoir ce renouvellement de l'intelligence par où? Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit agissant en nous à travers sa parole, afin que vous discerniez. Donc, ce n'est pas l'Église qui discerne pour vous, ce n'est pas l'État qui discerne pour vous, c'est vous qui doit réfléchir, vous devez réfléchir et comprendre la volonté de Dieu en cherchant ce qui est bon et agréable et parfait dans la volonté de Dieu pour votre vie. La sanctification. Hein? On parle de l'individu. Alors, il a utilisé cette phrase « siècle présent ». Donc, je reviens sur cette phrase. On a les dispositions naturelles de l'être humain selon le siècle présent. Donc, ça ne change pas vraiment, mais ça s'empire. OK? Donc, je reviens à ça. Il y a la convoitise. Il y a le problème de discriminer injustement. Il y a diverses et maintes méchancetés. Il y a la colère, il y a l'égoïsme, l'égocentrisme, il y a les jalousies, il y a l'esprit de dispute et des conflits, il y a la médisance, il y a la poursuite des plaisirs. Donc, c'est une chose qui progresse beaucoup de nos jours. Alors, à comprendre, c'est normal d'avoir quelques plaisirs. Mais se donner entièrement au plaisir, c'est plutôt l'hédonisme, une philosophie qui met le plaisir comme le seul objectif dans la vie. Et cela ne correspond pas du tout à la vie chrétienne. Il y a l'impiété, donc le vivre entièrement déréglé. Et un jeune a exprimé, donc c'était dans les informations récemment, donc c'était ce sentiment, c'était pas ces mots exacts, mais c'était ce sentiment. L'impiété, c'est notre normal aujourd'hui. C'était triste d'entendre ce jeune dire ça. L'impiété, c'est notre normal aujourd'hui. Il y a l'infidélité et déloyauté envers les prochains et envers Dieu. Il y a plein d'autres choses aussi. Petit raccourci. L'idée, donc, c'est que l'accroissement de ces choses, qu'on voit de plus en plus, ce jeune qui dit ça, c'est le normal pour aujourd'hui. L'accroissement de ces choses fait partie des signes de la fin de notre époque et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le Romains chapitre 12, versets 1 et 2, d'accord? Après avoir exposé les principes concernant l'éducation chrétienne, donc je veux dire le renouvellement de la pensée, eh bien, Paul continue en nous rappelant que la vie chrétienne individuelle n'est pas chacun pour soi, mais doit être vécue devant les autres chrétiens. Donc, on est dans le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, donc, pourquoi avoir cette humilité et modestie? Un sentiment modeste. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, donc notre corps humain, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, donc dans l'Église, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, etc. Donc, je m'arrête là. Mais le point, c'est que Dieu nous a formé une église avec plusieurs membres. Ça veut dire que nous vivons notre vie chrétienne indépendamment devant Dieu, mais on a quand même un rapport avec les autres chrétiens pour que le corps local des chrétiens fonctionne correctement. Donc, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne authentique en solitaire. Comment aimer ceux que vous ignorez volontairement? Comment mettre en pratique tous ces enseignements bibliques concernant les frères et sœurs quand vous les évitez? Romains chapitre 13 et Romains chapitre 14 enseignent que nous avons tous une dette d'amour envers les autres chrétiens. Tout ceci signifie que le vrai chrétien doit s'attendre à des changements de pensée et de comportement. On va regarder dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et on commence avec le verset 13. Pour nos frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, et donc ce mot pour, c'est en ce qui concerne le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, à bien comprendre que ce verset n'enseigne pas la prédestination au salut, mais la certitude du salut de ceux qui croient en Jésus-Christ. Le verset dit que Dieu a établi le chemin du salut depuis le commencement du temps, le salut par la grâce, moyennant la foi. Comment Abraham était-il sauvé? Par la grâce, parce qu'il a cru. Par la foi dans la vérité. Tous ceux qui croient à la vérité sont sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Donc on revient à cette question de la sanctification. La sanctification, verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues par, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, et bien que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc je répète les deux petites phrases à la fin. Toute bonne œuvre et toute bonne parole. Bon, il y a une partie de la vie chrétienne qui est intérieure. Votre communion avec Dieu, vos prières, vos sentiments, ces choses-là, votre compréhension, vos connaissances. Mais quand on parle de la sanctification, c'est surtout dans ce domaine où la vie chrétienne s'exprime par action et parole. C'est là que ça s'exprime. On fait quelque chose ou on dit quelque chose. Nous notons le mot « toute ». Toute œuvre et toute parole, toute bonne œuvre et toute bonne parole. Il n'y a pas de limite sur les actions et les paroles qui peuvent plaire à Dieu et être utiles à nos prochains. Certes, certaines paroles et certaines activités sont plus évidentes. Par exemple, l'évangélisation, c'est en plein air, c'est visible. Mais d'autres sont bien moins évidentes, parce qu'il n'a pas dit dans la bonne parole et la bonne œuvre. C'est multiple, il y a plein de choses. Donc d'autres qui sont moins évidentes sont par exemple le fait d'être fidèle au travail. Le chrétien au travail doit être fidèle, il doit travailler bien. Ou s'occuper des enfants. C'est un bon travail. C'est une bonne œuvre. Ou avoir un ministère de prière chez soi. C'est des paroles. Ou être honnête. Il avait déjà parlé de ça. On doit être honnête. Il ne faut pas être cupide, etc. Donc, il y a plein de façons que nos paroles et nos actions peuvent être les expressions de notre christianisme. La doctrine de la sanctification, de progrès en progrès, comme dit Paul, c'est l'idée de marcher de plus en plus avec le Saint-Esprit, en coopération avec le Saint-Esprit. L'application de la parole de Dieu à votre vie, le désir et l'effort de plaire à Dieu selon sa parole. En résumé de ce que nous venons d'entendre, nous notons que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, notre comportement sanctifié, conforme à sa parole. Que votre vie de chrétien soit vraiment chrétienne. C'est logique. Paul a dit dans Galates chapitre 5, versets 24 et 25, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puisque nous vivons par l'Esprit, donc c'est Dieu qui a mis à nous son Esprit, il nous a fait la nouvelle naissance, nous on est vivants grâce à Dieu, et bien marchons aussi selon l'Esprit. Dieu nous a donné l'Esprit pour nous donner la vie, et bien maintenant, il est logique que nous vivons en marchant avec son Esprit. Donc je vais donner simplement quelques pensées à la fin, comme pour récapituler le message. Écoutez la parole de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu. Jacques a dit, ça ne vaut pas la peine d'écouter sans pratiquer. Okay? Écoutez la parole de Dieu et mettez en pratique la parole de Dieu. Aimez vos prochains, et en particulier les frères et sœurs en Jésus-Christ. Exprimez des paroles gratifiantes, encourageantes, ou qui porteront un message pour le bienfait de l'autre. Et puis, pratiquez la bonté, la grâce et la vérité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine, et puis, je vous répète que on n'aura pas de Facebook jusqu'à la fin, un message sur Facebook jusqu'à la fin de l'été. Amen. Le Seigneur vous bénisse.